À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. À l'époque, mon premier ordinateur, entre guillemets, c'était en fait une calculatrice. C'était la TI-57. Il faut être prêt à apprendre quelque chose de nouveau et de faire les efforts nécessaires. Moi, dans ma carrière, il y a des tas de fois où je suis revenu d'un statut d'expert, entre guillemets, c'est-à-dire où je connaissais parfaitement mon sujet, et une semaine après, je repars au niveau débutant. Et je pense que c'est une des libertés essentielles que fournit l'informatique, c'est que tu as la liberté de choisir, en effet, le type de boîte dans lequel tu travaillais. Il n'y avait même pas, en deuxième année, il n'y avait même pas d'écran, c'est-à-dire qu'on travaillait sur un télétype, c'est-à-dire que c'était une grosse machine à écrire, entre guillemets, tout ce qu'on tapait allait sur un papier. C'est le secret que personne ne forcément se rend compte, c'est qu'il y a 1% des gens qui font l'effort nécessaire pour se démarquer de la masse.
Bienvenue sur le podcast Développeur Libre, dans lequel j'accueille chaque semaine une personne inspirante qui est devenue libre grâce au code. Alors bien sûr, on a chacun notre propre définition de la liberté, et c'est pour ça que dans ce podcast, je reçois aussi bien des entrepreneurs que des digital nomades qui parcourent le monde tout en travaillant, ou encore des salariés qui se construisent petit à petit une vie sur mesure pour profiter pleinement et accomplir leurs objectifs en tout genre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre, qu'on pourrait qualifier d'un serial entrepreneur, qui a bossé dans une bonne dizaine de boîtes, toutes différentes les unes que les autres. Ça va de la start-up de deux personnes à l'une des plus grosses boîtes au monde. Aujourd'hui, à San Diego, en Californie, Pierre nous raconte dans cet épisode comment il s'est expatrié aux États-Unis, mais on parlera aussi de sa vision des évolutions technologiques et notamment de tous les nouveaux langages de programmation qui fleurissent en ce moment, ou encore du dilemme entre se spécialiser ou rester généraliste quand on se lance dans le développement. Donc si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez actuellement, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et ça nous aide à créer de nouveaux épisodes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé pour raconter son histoire sur le podcast, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'adresse contact@developpeurlibre.com. Et en attendant, je vous laisse tout de suite avec ma discussion passionnante avec Pierre. Salut Pierre, merci d'être là sur ce nouvel épisode du podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ce que je te propose tout de suite, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer comment tu te définirais aujourd'hui ?
Bonjour Quentin, d'abord merci pour l'invitation. Je m'appelle Pierre, j'habite aux États-Unis, c'est déjà une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est que je suis développeur, certes, comme beaucoup des invités que tu as eus sur ton podcast, mais bon, ça fait maintenant, pour dire, j'ai commencé à bosser en 1987, le siècle dernier, avant l'Internet, avant même l'ordinateur, avant le PC, tout ça, c'était, à ce moment-là, c'était la révolution de ce qu'ils appelaient à l'époque les ordinateurs individuels, donc c'était avant tout ça. Mais n'empêche que l'informatique existait déjà à ce moment-là, donc c'était plutôt de l'informatique soit industrielle, soit de gestion, je dirais. Et j'ai eu le virus dès que j'ai commencé là-dedans. Donc, beaucoup de gens qui se présentent sur ton podcast disent qu'ils ont un parcours atypique. Pas moi. Moi, j'ai un parcours très classique. J'étais plutôt bon en maths, tout ça. Donc, bac scientifique, bac C à Cambrai. Après, comme ça allait bien, classe prépa à Lille. Et puis après, une école d'ingénieur où, en troisième année, j'ai pris informatique. Donc, c'est... Je suis tombé dans l'informatique il y a très longtemps, et même maintenant, après toutes ces années, je vais éviter de faire la division pour dire combien il y a d'années, mais je suis toujours développeur et j'adore toujours cela. Et entre-temps, beaucoup de choses sont passées, et maintenant je suis aux États-Unis.
Ok, trop bien. On va revenir un peu sur tes différents projets, hein, parce que on avait discuté avant l'enregistrement de cet épisode, et il y a pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir revenir, parce que tu as fait pas mal de choses. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'es tombé dans le monde de la programmation ou du code en général. Est-ce que c'est quelque chose que t'as découvert dès le début de ta carrière ou durant tes études, ou enfin voilà, comment s'est passée cette découverte du monde de la programmation, et comment aussi t'as appris tes premières notions du code.
D'accord, ouais. Donc encore une fois, c'est dans les années 80, et à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur. À l'époque, mon premier ordinateur, entre guillemets, c'était en fait une calculatrice. C'était la TI-57, qui était, il y avait 49, puisqu'ils n'appelaient pas de programmation, donc c'était très limité, un écran LED rouge où on pouvait faire très peu de choses, mais n'empêche que j'ai passé des nuits à programmer dessus, parce que je trouvais ça magique. de programmer dans ces contraintes hyper, hyper spécifiques. Et à l'époque aussi, c'était une explosion cambrienne d'ordinateurs, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait, moi j'avais un TRS-80, il y avait des dizaines et des dizaines d'ordinateurs. Il n'y avait pas de système d'exploitation qui était sorti du lot. Par exemple, le TRS-80, il y avait à peine un système d'exploitation. C'était quand tu le lançais, il n'y avait même pas de disque dur. Ça ouvrait un prompt pour un basique, quoi. Donc, tu programmais en basique. J'avais la chance d'avoir un lecteur de cassette, on pouvait sauver des programmes dessus, mais bon, c'était une programmation basique. Il y avait un assembleur aussi, mais c'était réservé aux gens qui avaient vraiment de l'expérience. Mais n'empêche qu'avec un système aussi limité, pareil, je passais mes nuits à programmer là-dessus. J'avais des copains qui avaient aussi des ordinateurs sur lesquels qu'ils utilisaient, mais c'était des systèmes d'exploitation complètement différents. Beaucoup, c'était commencé à être des plateformes de jeux. Et à un moment donné, il y a deux plateformes qui ont émergé, qui étaient le PC et le Mac. Donc, moi, quand je suis entré en école d'ingénieur, il n'y avait même pas de... Il n'y a qu'en troisième année où j'ai touché un Mac. En deuxième année et en première année, c'était des ordinateurs... c'était à l'époque, c'était des PDP-11, c'était des systèmes Linux. Il n'y avait même pas, en deuxième année, il n'y avait même pas d'écran. C'est-à-dire qu'on travaillait sur ce qu'on appelle un télétype, c'est-à-dire que c'était une grosse machine à écrire, entre guillemets. Tout ce qu'on tapait allait sur un papier. Et donc, c'était ça la programmation. Donc, ça peut paraître archaïque tout ça, mais c'était quand même déjà à l'époque excitant parce que c'était des langages déjà sophistiqués, c'est du C, du Pascal. Et donc, on pouvait faire des choses vachement intéressantes et je suis tombé là-dessus. Et en troisième année, j'ai même eu le doute de savoir est-ce que je prends informatique comme option parce que je faisais tellement d'informatique déjà sur mon temps libre que je me disais est-ce que je veux vraiment y passer aussi ma vie professionnelle. Mais heureusement, j'ai dit oui. Donc, j'ai pris une section informatique et donc, encore une fois, ça ne m'a pas quitté depuis ce moment-là, quoi. C'est une passion qui encore aujourd'hui est intacte, quoi. Même aujourd'hui, quand j'en ai marre de programmer pour le boulot, je me reposais entre guillemets, je refais l'informatique, mais
ok, top. Et donc voilà, donc tu commences à découvrir ce monde de l'informatique avec des outils qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Quels ont été les premiers projets plus ou moins concrets, on va dire, sur lesquels tu as travaillé? Est-ce que tu as déjà commencé à lancer des petits projets entrepreneuriaux durant tes études, ou est-ce que c'est venu un petit peu après et t'as vraiment commencé à... Enfin, t'es vraiment rentré dans le dur lors d'un premier job après tes études?
Ouais. Encore une fois, à l'époque, si on voulait faire des projets sur le côté, aujourd'hui, bon, c'est hyper facile. À l'époque, encore une fois, il y avait... c'était hyper compliqué. Bon, en tout cas, c'était beaucoup plus cher. Mmh. Le truc à la mode à l'époque, c'était les serveurs Minitel, qu'on pourrait comparer entre guillemets, avec de grosses guillemets, avec un site web aujourd'hui. Mais bon, ça demandait des investissements beaucoup plus lourds. C'était des infrastructures qu'il fallait louer. C'est une connexion X25. Bref, c'était assez compliqué à mettre en place. Donc, à l'époque, le paysage était tel que faire un projet soi-même sur le côté, c'était quand même assez compliqué. Faisable, okay, mais compliqué. Il y avait les shareware, il y avait des choses comme ça, mais ce n'était pas la même ampleur que ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, moi, ma première expérience, c'était le boulot. Et là, j'ai eu une chance incroyable, c'est-à-dire qu'en sortant de Supélec, donc je suis allé chez Bull, je ne sais pas s'il existe toujours, mais bon, c'était le constructeur informatique de l'époque, et j'ai travaillé avec une équipe qui, justement, portait un système Unix sur un nouveau ordinateur que Bull sortait. C'était un ordinateur à tolérance de panne, quoi. Il y avait plusieurs processeurs, donc c'était révolutionnaire pour l'époque. Et donc moi, mon premier boulot, j'avais 21 ans, sortir, c'était le rêve, quoi. C'est-à-dire, le projet, le boulot lui-même, je faisais du test essentiellement, mais c'était dans un environnement avec des génies, quoi. C'est des gens passionnés de ça, et surtout qui... Unix, en soi, c'est presque une église. C'est-à-dire, c'était avant Linux, hein, c'était les Unix purs, c'était du AT&T, du BSD, des choses comme ça. Donc, c'était des puristes. Et des gens hyper brillants, hyper passionnants. Il y avait des discussions, je me rappelle, au déjeuner, pour moi, c'était une révélation, quoi. Parce qu'on apprend, bien sûr, Unix quand tu es à l'école, mais le voir en pratique, des gens qui le portent, qui le changent, qui le mettent sur une machine réelle, c'était une chance inouïe dont je me rends compte maintenant, parce qu'il y a eu plein de technologies depuis le temps que je bosse. Mais encore aujourd'hui, ce que j'ai appris, donc, en premier boulot chez Bull, je l'utilise encore aujourd'hui parce que du fait que je fais du test, toutes les commandes Unix, les, les SED, les GREP, les TR, les VI, tout ça, j'ai dû les tester. Donc, c'est un skill set qui me reste, que j'utilise encore, même hier. Je faisais un script pour installer un software, ça me sert encore. Donc, c'est peut-être la seule technologie de toute ma carrière qui est encore tout à fait up-to-date. Et donc, pour répondre à ta question, ouais, c'est le premier truc, la première révélation que j'ai eue en rentrant dans la vie professionnelle, c'était Unix. Ouais.
Ok. Top. Et justement, là, tu nous parles de l'évolution des différents outils, le fait de devoir toujours apprendre et le fait, au contraire, d'utiliser toujours des compétences que tu as développées il y a plusieurs dizaines d'années. Comment tu vois cette évolution des technologies? Comment tu le vis, surtout? Et est-ce que tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui a peut-être 30 ans aujourd'hui, qui est dans le monde du code depuis entre 5 et 10 ans, en fonction de s'il faisait ça par passion ou pas. Mais quelqu'un qui est relativement jeune, on va dire, dans le domaine, hein, 5 ans, c'est vrai que par rapport à l'échelle de l'informatique, ça commence à faire beaucoup, mais c'est quand même très, très faible. Voilà, est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes profils par rapport à l'apprentissage des technologies?
Ouais. D'abord, je comprends les challenges que ça pose. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, un développeur qui me demande un conseil, déjà, tu dois choisir ton camp. C'est-à-dire, tu dois dire, est-ce que je vais faire plutôt du back-end, du mobile ou du web? Je dirais, bon, il y a ces trois grosses parties. Bien sûr, tu peux faire de tout. Mais bon, je pense que quand tu commences, tu es obligé de choisir ta bataille et donc de choisir déjà un domaine. Et c'est vrai que c'est compliqué. L'avantage que tu as, moi, le problème, c'est que toutes ces révolutions-là qui sont, encore une fois, quand j'ai commencé, il y avait quasiment que du back-end. Et donc, j'ai vu arriver la vague, déjà l'Internet, qui est arrivée dans les années 90. Donc, c'est pareil, à l'époque, personne ne connaissait. Donc, j'en ai fait parce que, de toute façon, il n'y avait aucun expert. C'était naturel de l'apprendre. Donc, la transition se fait facilement. Pareil pour le mobile. Quand je suis parti aux États-Unis, c'était pour une boîte qui faisait développement mobile. Pareil, à l'époque, il n'y avait personne qui le connaissait. Donc, on se lançait dans la technologie. Pareil, quand l'iPhone est arrivé en 2007, pareil, tu n'as pas le choix, tu le fais parce que c'est une progression naturelle. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces technologies-là ont évolué tellement que ça pose en effet des gros problèmes. Bah, gros problème, c'est difficile. La première marche pour commencer à être un bon développeur mobile, un bon développeur web ou un bon développeur back-end, et a fortiori, bon dans les trois, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que ça demande... c'est pour ça que quand les gens me demandent de l'informatique, c'est bien, c'est vrai que ça paye bien, on est d'accord, mais ça demande en effet une volonté de dire à tout moment, il faut être prêt à apprendre quelque chose de nouveau et de faire les efforts nécessaires. Moi, dans ma carrière, il y a des tas de fois où je suis revenu d'un statut d'expert, entre guillemets, c'est-à-dire où je connaissais parfaitement mon sujet, et une semaine après, je repars au niveau débutant, c'est-à-dire que tu ne connais plus rien parce que tu dois apprendre une nouvelle technologie, parce que c'est ce qu'on demande. Et donc, c'est un roller coaster assez spécial et qu'il faut un tempérament adapté parce que je vois beaucoup de développeurs qui, en effet, préfèrent garder une expertise et essayer de l'entretenir aussi longtemps qu'ils peuvent parce que c'est dur de dire « je repars à zéro ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, faire un choix d'une technologie en disant « ça va me tenir 20 ans ou 30 ans », c'est impossible. Donc, il faut vraiment être prêt, en effet, à faire les efforts personnel, il y a du training comme tu fais sur ton site web. Je pense qu'il faut pas espérer que l'école est importante, bien sûr, mais c'est soi. Il faut avoir la volonté de dire je me remets en question à tout moment.
Ouais, ok. Et toi, justement, qui a une vision beaucoup plus long terme, enfin qui a beaucoup plus de recul sur la situation, comment tu vois l'évolution du métier de développeur? Est-ce que justement on tend vers quelque chose de très spécialisé, c'est-à-dire que voir des développeurs web full stack, voir des développeurs mobiles cross-platform, est-ce que pour toi c'est le genre de profil qui va disparaître parce que ça va devenir tellement complexe et ça va évoluer tellement vite qu'on va plus pouvoir être des généralistes et justement on va devoir se spécialiser dans une technologie en particulier ou alors dans un ensemble de technologies qui forment un domaine bien particulier, ou est-ce que au contraire avec toutes les nouvelles façons d'apprendre, toutes les nouvelles ressources qu'on trouve sur Internet, est-ce que au contraire ça peut le fait d'être généraliste, ça peut continuer à exister au final? Comment tu vois les choses?
Moi, je vois que la grosse différence, c'est pour quelle boîte on travaille. C'est-à-dire que pour ma part, donc, des années 90, j'ai créé ma boîte, parce que j'étais au début, je travaillais dans une boîte de services. Mais au bout d'un an ou deux, je dis, pourquoi je donne 30% de la facturation à un commercial? Donc, j'ai créé ma boîte de service. Et donc, à partir de là, tu vas à la chasse aux clients. Et ça dépend le type d'employeur. Parce que moi, j'ai travaillé dans des boîtes toutes petites. Par exemple, j'ai créé des projets il y a quelques années, on était 3. Et j'ai travaillé aussi pour Walmart, qui est la plus grosse boîte au monde. Je crois qu'il y a 2 200 000 employés. Donc, quand tu travailles dans une grosse boîte, la spécialisation est nécessaire. Quand je travaillais chez Walmart, donc sur l'application mobile de e-commerce, tu es obligé de te spécialiser. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent pas quelqu'un. Même si en théorie, ils te disent, ouais, c'est bien si tu peux faire plusieurs choses, mais en pratique, on te dit, bah là, tu travailles sur l'application mobile. Moi, j'étais sur l'application, c'était du React Native, mais quand même spécialisé iOS. Voilà, j'avais cette étiquette-là. Et on espère que tu sois spécialiste dans cette partie-là, et voilà. Par contre, dans le même temps, j'ai travaillé quelques années avant pour une start-up de San Francisco, où là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on te demande, ok, j'étais embauché au début pour faire une application mobile aussi, mais très vite, j'ai fait du web, j'ai fait du back-end, j'ai fait un peu de tout, parce qu'une start-up ne peut pas se permettre, en tout cas dans les phases initiales, ou en particulier s'il n'y a pas forcément des ressources infinies, on préfère des gens qui sont généralistes parce qu'il faut combler les trous. Les besoins changent quasiment du jour au lendemain. Donc, le jour où tu as une feature qui touche beaucoup plus le back-end que le front-end, eh ben, on est content de pouvoir bouger les ressources du front-end vers le back-end. Et quand tu as un profil où tu peux faire ça, pour la boîte, c'est un gain énorme parce que sinon, ils sont bloqués ou ils doivent embaucher quelqu'un et ça, c'est toujours plus lourd. Donc, personnellement, par choix individuel, je pense que c'est mieux d'être généraliste. Mais il y a tout à fait une place à être spécialiste. C'est un choix que je peux comprendre, qui, à mon avis, est plus risqué. Mais bon, c'est un choix personnel parce que les grosses boîtes, en effet, préfèrent les spécialistes.
Ouais, bah, c'est vrai que on me demande souvent, voilà, quel langage choisir quand on veut apprendre la programmation, parce qu'il y a de plus, enfin, on va pas se mentir, hein, le développement et le monde de l'informatique, c'est, enfin. Il y a un effet de mode hein, en ce moment, et ce qui fait que de plus en plus de monde s'y intéresse, et c'est top. Et du coup, on me demande de plus en plus bah, quel langage apprendre quand je veux démarrer, est-ce que le Python il est plus simple, est-ce que, etc., etc. Et moi, je leur réponds souvent qu'il faut d'abord définir ses objectifs. Et comme tu l'as très bien expliqué, si son objectif, c'est de bosser chez Google et chez personne d'autre, bon, bah, le plus simple, ce serait peut-être d'aller voir les offres d'emploi de Google et de voir ce qui est demandé le plus souvent et puis de s'attaquer à cette technologie ou ces technologies qui sont présentées. Et au contraire, si on veut bosser pour une startup, bah, soit c'est une startup bien précise et dans ce cas-là, on suit le même raisonnement, soit c'est le monde des startups en général. Et effectivement, comme tu le dis, il faut essayer de toucher à tout. Et puis, de toute façon, apprendre une technologie. Comme tu le dis, il y a des choses que tu utilisais il y a 20 ou 30 ans que tu utilises toujours aujourd'hui. Donc, ça peut être des langages, des outils proprement dit. Mais il y a aussi beaucoup de notions théoriques que t'apprends, que tu utilises avec un certain outil et qui s'utiliseront quasiment de la même manière avec d'autres outils, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Simplement, moi, je dirais quand même, c'est vrai que c'est une question que tu poses à beaucoup de tes invités et je suis d'accord avec ta réponse de dire, ouais, ça dépend de ce que tu veux faire, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, et c'est assez récent, hein, y a quand même un langage qui se dégage, en tout cas dans ma perspective à moi, qui est quand même TypeScript. C'est TypeScript qui est un surcouche par rapport à JavaScript. Je dis TypeScript plus que JavaScript parce qu'au moins TypeScript, il y a un système de type qui fait que si quelqu'un après veut faire des langages typés comme Java ou des choses comme ça, au moins la transition est moins dure. Et je pense que TypeScript, c'est un bon candidat pour quelqu'un qui dirait aujourd'hui, j'y connais rien en informatique, je veux m'y mettre. Parce que le TypeScript, ça te permet de travailler à la fois bon, sur le web de manière évidente avec des React ou Vue, tout ça, tu peux faire en TypeScript. Tu peux faire aussi du mobile en faisant du React natif. C'est aussi ça te permet de faire des applications mobiles natives, mais en développant en TypeScript. Et aussi, avec Node, tu peux faire du back-end. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, mais qui dit, tiens, je veux m'essayer à l'informatique, je pense que TypeScript, c'est quand même un bon candidat, parce qu'encore une fois, ça lui permet de travailler dans les trois domaines que je viens d'évoquer, avec le même langage. Donc, il n'y a pas le problème de context switching, de basculer du serveur au back-end avec un langage différent qui complique les choses et ce n'est pas la peine de s'embêter avec ça. Et en plus, le tooling avec VS Code est quand même vachement bien, est quand même sophistiqué et un support natif de TypeScript qui fait que l'expérience de programmation est quand même beaucoup plus agréable. Et donc, j'aurais quand même tendance à dire qu'aujourd'hui, il y a quand même ce langage-là se démarque par rapport aux autres.
Ok, trop bien. Bah écoute, je note. Et puis pour ceux qui ont envie de se lancer dans la programmation et qui sont attirés aussi bien par le web que par le mobile, bon bah voilà, vous savez par quoi commencer. Trop bien. Eh bien écoute, là j'ai envie de rebondir sur un truc que tu nous as dit juste avant. T'as conclu la question de se spécialiser ou se généraliser par « moi je pencherai plus pour la généralisation » parce que c'est ce que je préfère. Et d'après ton raisonnement, on en conclut que tu es peut-être un petit peu plus attiré par le monde des startups, ou en tout cas un monde où tu vas pouvoir toucher à plusieurs choses et presque toucher à tout. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton expérience dans le monde des startups, dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce que, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as monté différentes boîtes? Je sais que tu en as monté au moins une. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce parcours hors des sentiers battus, entre guillemets, parce que bon, je pense que, enfin, peut-être moins maintenant, mais l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est un parcours pas très classique, on va dire.
Tout à fait, ouais. Donc moi, ça a commencé donc en 1990. Donc c'était en effet, avant ça, j'étais dans une boîte de service. J'étais le numéro 11 chez Alten. Je pense qu'Alten existe toujours. C'est une boîte de service, une SS2I parisienne. Donc, l'intérêt de travailler en SS2I, en particulier en premier boulot, c'est que ça te permet, je pense que les questions que tu poses là, ça se pose aussi quand tu as un premier boulot, tu dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler dans une banque, je vais travailler dans l'industrie, c'est dur à choisir. Donc, moi, j'avais fait le choix d'une SS2I à l'époque pour dire au moins, ça permettra de toucher à plusieurs types de sociétés avant de décider dans lequel je veux m'intégrer. Donc, encore une fois, j'ai eu la chance d'aller chez Bull pour commencer, et après, dans d'autres sociétés, industriel. Et encore une fois, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même, quoi. Trouver des contrats à l'époque, c'était pas très difficile. Donc, avec un copain de promo, Bruno, on a créé une boîte, Unigone, qui existe toujours aujourd'hui, qui a pivoté, mais qui existe toujours. Donc, l'idée, c'était de trouver chacun nos contrats et donc, plutôt que de laisser une commission à un commercial, encore une fois, on s'est dit, on va faire ça pour nous, et ça nous permettra en parallèle, de développer des produits. Parce qu'à l'époque, comme je disais, ça coûtait plus cher qu'aujourd'hui, donc on s'est dit, on va faire de la prestation de service, et en parallèle, on cherchait des idées de produits, et dit, quand tu auras de la trésorerie, on bascule du côté produit, et voilà, c'était l'idée à la base. Donc, mais pareil, quand tu es en boîte de service, quand tu cherches des contrats, j'avais toujours cette balance entre « Ah, je travaille dans une grosse boîte, c'est quand même plus sympa, donc je travaille à l'éducation nationale ou vraiment des grosses boîtes. » Puis à un moment donné, tu dis « Ah, non, allez, je préfère travailler pour des petites boîtes. » Donc, j'ai retravaillé pour on n'appelait pas ça des startups à l'époque, mais quand même des plus petites boîtes. Donc, c'est toujours ce ping-pong entre grosses boîtes et petites boîtes, parce que les deux, bien sûr, ont leur intérêt. Et moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir faire les deux. Et c'est pareil, même après, donc en particulier quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai toujours alterné entre grosses boîtes et petites boîtes. Encore une fois, j'ai recréé une start-up avec deux copains ici, donc on était trois, et puis à un moment donné, bon, ça n'a pas marché, donc retour dans l'industrie. Donc là, j'ai opté pour une grosse boîte, donc Qualcomm, qui est énorme, et puis après, j'en ai eu marre de Qualcomm, je suis reparti dans une start-up. Et ton podcast est orienté beaucoup parle beaucoup de la liberté, et je pense que c'est une des libertés essentielles que fournit l'informatique, c'est que tu as la liberté de choisir, en effet, le type de boîte dans lequel tu travailles. Tu peux te permettre de dire, pas de faire la fine bouche, mais au moins de vraiment choisir là où tu veux aller. Et en particulier, ce choix de pouvoir alterner entre grosses boîtes et petites boîtes est quelque chose qui, moi, me plaît et qui, entre guillemets, est parallèle avec le choix, est-ce qu'on se spécialise ou est-ce qu'on reste généraliste. C'est vrai que je préfère généraliste, mais c'est aussi un choix, j'allais dire, économique. Je pense que c'est plus sûr, ça te permet d'être plus facilement employable si tu es généraliste, c'est ce que je pense, mais bon, c'est j'admets que le débat peut être ouvert.
Ouais, ok. Et donc là, effectivement, tu nous dis que c'est ce qu'on disait en off, hein, l'informatique apporte quand même une énorme liberté, ou en tout cas une énorme possibilité, une énorme potentielle liberté. Et en fait, là voilà, tu nous dis, bon, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans différentes boîtes, dans différents types de boîtes aussi, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'informatique. Enfin, je veux dire, on ne peut pas se dire que juste l'informatique permet ça. Et pour moi, il y a quelque chose de plus qui est interne à nous-mêmes et ça vient de notre personnalité, ça vient de notre ambition. Là, tu me dis, je suis parti aux États-Unis. Bon, je suppose que ça ne s'est pas fait comme ça en un claquement de doigts et ça n'a pas été si facile. Est-ce que tu peux justement nous parler de ce voyage aux États-Unis, comment ça s'est fait, est-ce que ça s'est fait hop en un claquement de doigts, est-ce que ça a été facile, est-ce que tout a été rose, ou est-ce que au contraire il y a eu des petits moments de doute, des petits problèmes à droite à gauche, enfin voilà, comment s'est passé cette transition entre la France et les États-Unis?
Ouais, donc pareil, c'était donc j'avais ma boîte de je travaillais avec, on était trois à l'époque, donc je travaillais dans cette boîte à nous trois, c'était hyper intéressant, mais Il y a eu deux révolutions coup sur coup, quoi. Une révolution avec un petit air quand même, faut pas non plus exagérer. La première, c'était la révolution de l'Internet, quoi. Donc l'Internet est arrivé, je dirais, milieu des années 90. Et c'était à l'époque, on appelait ça les dot-com, quoi. C'était ce qui est devenu après la bulle Internet. Mais en tout cas, c'était de la folie à l'époque. Faut bien voir. Tout le monde, toutes les boîtes, n'importe quelle taille, voulaient un site web. Pas trop savoir, ils savaient pas trop ce qu'ils allaient mettre dessus. Mais bon, c'était encore une fois, il fallait un dot-com à tout prix. Et donc, mais c'était de la folie. Et tu lisais les journaux à l'époque, tu voyais ce qui se passait aux États-Unis, c'était encore la folie multipliée par 10. Donc, en plus, c'est greffé là-dessus. Comme je disais, il n'y avait pas les ordinateurs quand j'ai commencé, ni l'Internet, il n'y avait non plus les téléphones mobiles. Et donc, ça a correspondu aussi avec l'essor des téléphones mobiles. Et à un moment donné, donc, un copain qui était CTO d'une boîte, donc d'une start-up américaine, donc qui était basée à San Diego, qui travaillait dans faire des applications mobiles. Hein. Bon, c'est pas du tout les mêmes applications que ce qu'on a aujourd'hui, mais quand même, ils surfaient sur la vague à la fois Internet et mobile, et ils se sont dit, est-ce que ça t'intéresse de nous rejoindre? Donc, oui, pourquoi pas. Donc, au début, je bossais avec eux à Paris, et à un moment donné, il y a eu l'opportunité d'aller aux États-Unis. Donc, j'étais marié avec deux enfants. Petite histoire, ma femme travaillait aussi dans l'informatique et travaillait aussi dans cette boîte. Donc, on était tous les deux là-bas et il a fallu faire le choix de dire, elle avait aussi sa boîte. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer ça. C'était quand même, encore une fois, c'est difficile à décrire, mais c'était une période complètement folle, entre guillemets. Hein. Donc, on s'est dit, il faut quand même, c'est une opportunité. À l'époque, les enfants étaient petits, on habitait Paris, c'est quand même galère d'avoir des enfants en bas âge à Paris, donc on s'est dit, allez, San Diego, pourquoi pas. Donc, c'était pas facile, mais c'était pas non plus très, très compliqué. On a dû quitter nos boîtes respectives et puis prendre un billet d'avion et partir à San Diego. Donc, c'était. Mais à l'époque, c'était tellement fou comme époque, tu disais, je peux pas laisser passer ça, quoi. Donc, il fallait vraiment essayer. Et donc, on est arrivé. Bon, je trouve que 3 mois après, la boîte a coulé, mais bon, c'est une autre histoire.
Ok, top. Et donc voilà, 3 mois après, la boîte a coulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as réagi? Est-ce que sur le coup, ça a été un choc un peu en te disant, mince, j'ai un peu tout plaqué en France. Là, tout s'écroule entre guillemets aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, comment t'as réagi et comment vous avez réagi à deux avec les enfants?
Je dirais presque même pas. C'est-à-dire que la période était folle et même, moi je suis fils de paysan, donc j'ai un rapport à l'argent spécial. C'était des boîtes où, quelque part ça existe encore aujourd'hui, la priorité n'était pas de faire du profit, c'était juste d'acquérir des parts de marché. Et donc c'était de la folie, quoi. C'était parce qu'ils étaient, il y avait de l'argent venant de VC. C'était un peu fou. Et donc c'était intéressant de voir d'un point de vue technique, c'était hyper intéressant. Je vais pas, c'était évident que c'était hyper intéressant. Donc c'est ça aussi qui me motivait. Mais c'était aussi d'un point de vue presque sociologique de voir de l'intérieur comment ça pouvait marcher. Et c'était donc même à Paris, c'est un exemple, mais donc je travaillais à Paris, les locaux étaient sur les Champs-Élysées, qui est le pire endroit où tu puisses faire des locaux pour une boîte, parce que tu dis, pourquoi te mettre sur les Champs-Élysées? Ça coûte cher, et puis c'est pas pratique, quand tu veux manger le midi, ça te coûte un bras, bref, c'était absurde, mais bon, l'esprit était là, c'est tout en show-off, donc c'était fou, quoi. Et donc c'est tout ça, c'était fin 2000, donc je suis arrivé aux États-Unis donc en début 2001, et quand on regarde les courbes maintenant, la bulle Internet avait déjà explosé. Donc, on était dans le rebond, c'est-à-dire qu'il y avait encore plein de gens qui disaient « Ouais, ça va redémarrer, il n'y a pas de raison, ça va repartir. » Donc, des gens qui avaient fait fortune dans la première, au début de la bulle Internet, essayaient de dire on va refaire un deuxième coup comme ça maintenant. Donc, il y avait encore d'argent qui se promenait, mais à un moment donné, quand tu ne fais pas de profit, de bénéfice, ben voilà, on arrive. Donc, en mars 2001, le 13 mars, je me souviens, ben voilà, la boîte est finie. Donc, c'est sûr que c'était un choc. Mais quelque part, mon instinct paysan me disait que ben, c'est un peu normal. Mais bon, c'était quand même un peu dur. Donc, j'ai fait venir mon ancien associé Bruno, ils sont venus aux États-Unis, on s'est promené, on a fait le tour de la Californie, bref, tout. On va voyager un peu avant de repartir, hein, parce que l'idée, c'est de dire, ben, il faut qu'on reparte. Mais quand on est revenu à San Diego après notre promenade, eh ben, en fait, la boîte avait retrouvé des gens qui avaient ramassé les miettes, entre guillemets, avaient acheté 3-4 boîtes et essayé de reconstruire une boîte avec ces 4 boîtes moribondes. Eh ben, on s'est dit, ben, ouais, tiens, ben, allez, on va réessayer ça. Et donc, on est reparti donc, avec la boîte, le nom a changé, mais bon, ça a duré plusieurs années où c'était toujours une succession de hauts et de bas, quoi. C'est-à-dire qu'on a de l'argent, ça monte, on fait des produits, on a des clients, on ne les fait pas payer, donc ça marche. Et puis à un moment donné, ça retombe, donc il y a eu plusieurs événements comme ça, mais ce n'était pas vraiment un choc pour nous, ce n'était pas toujours facile à gérer. Mais là où c'est devenu difficile, c'est quand bon, les enfants commencent à grandir. À un moment donné, on a lancé les processus pour la carte verte, tout ça. Et donc, à un moment donné, c'est dit, y avait des moments plus ou moins pratiques pour que la boîte coule, entre guillemets. Donc, il fallait que les choses se synchronisent bien. Donc, il y avait un peu de stress de ce côté-là. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'à un moment donné, tu prends goût, quoi, à vivre aux États-Unis, quoi. Surtout à San Diego, par rapport à Paris. Bon, tu te dis, à un moment donné, tu te mets plus dans le. À un moment donné, je saurais pas le dater. Mais tu te dis, bah non, maintenant, je voudrais bien rester aux États-Unis. Ça arrivait au bout de 5-6 ans, peut-être là-bas. Et là, ça devenait un peu plus stressant. Mais inversement, les choses se sont un peu stabilisées. Donc, c'était. Mais c'était une période. Il y aurait de quoi écrire des livres. Hein. C'était quand même passionnant.
Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est hyper intéressant ce que tu nous dis parce que, moi, j'ai eu une expérience aux États-Unis, bon, qui n'est pas du tout la même que la tienne, surtout que c'était à Las Vegas, donc bon, ça n'a rien à voir. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis parce que, moi, j'ai une vision un peu différente des États-Unis où c'est un peu, voilà, le rêve américain, tout est beau, tout brille. Et puis, au final, quand tu mets le pied là-bas, bah, tu te dis, ah oui, il y a quand même des choses hyper intéressantes. Il y a quand même des territoires incroyables et une mentalité aussi qui est des fois hein, assez incroyable et hyper intéressante aussi. Mais c'est quand même loin de ce qu'on peut imaginer. Et toi, tu nous dis, bah, en fait, non. Enfin, alors, tu ne nous as pas dit le contraire, mais tu nous confirmes en tout cas que voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a des cultures intéressantes, il y a des paysages aussi à San Diego, je suppose, intéressants. Et ce qui fait que le fait d'y vivre, bah, c'est pas non plus forcément qu'un fantasme et ça peut matcher avec ce qu'on peut imaginer nous en tant que avec un regard français quoi. Donc ça c'est hyper intéressant. Et du coup voilà comment s'est passé la suite. Est-ce que tu as créé des boîtes là-bas et surtout est-ce que tu peux nous expliquer et surtout est-ce que t'as un point de vue là-dessus, sur les différences entre mentalité peut-être et facilité de trouver de l'emploi entre la France et les États-Unis et surtout la côte ouest pour quelqu'un qui a un profil assez tech.
Ouais. C'est vrai que c'est un pays que j'aime bien, mais c'est un pays qui est déroutant quand tu viens avec tes schémas français. Schéma, c'est pas forcément péjoratif, mais en tout cas, tu as des choses que tu considères comme acquis quand tu es français, ben, qui te semblent normales et que tu as du mal à voir comment ça pourrait être autrement. Et faut s'adapter au fait qu'ici, les règles sont différentes. Donc, faut pas se leurrer. Les États-Unis sont une société, que j'allais dire, violente. C'est-à-dire au sens où c'est l'individualisme poussé un peu à l'extrême. Un exemple classique, c'est tu perds ton boulot, certes, tu n'as pas de chômage, quasiment pas. Et surtout, tu perds ton assurance maladie. C'est-à-dire que si tu as des enfants, tout ça, d'un seul coup, tu perds ton assurance maladie. Il y a des choses comme Cobra, bref, il y a quelques mécanismes pour essayer d'agir comme système qui pourrait modérer un peu la brutalité des choses, mais quand même, en particulier si ta boîte coule, c'est-à-dire disparaît, qui est classique pour une start-up, tu n'as même pas ce qu'on appelle Cobra, qui est une assurance maladie qui coûte cher, mais qui existe, non, tu perds tout. Donc, l'avantage positif, c'est que tu restes pas longtemps chômeur, c'est que tu es obligé de trouver un boulot tout de suite. Tu peux pas dire, tiens, je vais bosser sur mes projets personnels pendant que je suis au chômage, soit tu touches pas de chômage ou très peu. Donc, tu es motivé à trouver du boulot. Et inversement, les contrats de travail, ce qui m'a toujours surpris, en particulier mon premier contrat de travail avec la boîte américaine qui s'appelait IndyQ, le nom, la boîte a disparu maintenant. Le contrat de travail, ça tenait sur une feuille de papier. Par contre, le contrat de stock option, il y avait au moins 200 pages, quoi. C'est-à-dire que le contrat de travail, c'est ce qu'ils appellent employment at will. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, t'es embauché à ce salaire-là. On dit, tu peux quitter la boîte quand tu veux, avec ou sans préavis, avec ou sans raison, tu fais ce que tu veux. Mais inversement, la boîte peut faire pareil. C'est-à-dire qu'en effet, tu peux te débarrasser de quelqu'un avec ou sans préavis, avec ou sans raison, et voilà, à tout moment. Et ça arrive. Il y a des gens, tu arrives le vendredi matin et on te dit, ben, c'est ton dernier jour. En général, en Californie en tout cas, on donne ce qu'ils appellent un severance package, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut dire ça en français, des indemnités, mais c'est 2 semaines. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, tu touches encore ton salaire. Éventuellement, tu gardes même ton assurance maladie pour 2 semaines de plus, mais c'est 2 semaines, c'est très court. Quand tu es dans des boîtes plus grosses, ça peut aller, il peut y avoir plus de jours de severance, mais en général, ça tourne autour de ces chiffres-là, quoi. C'est très petit. Donc, quelque part, c'est facile d'embaucher quelqu'un. Dans ça, c'est-à-dire que tu embauches quelqu'un, tu sais que ben, s'il ne fait pas l'affaire, ben, peut-être même qu'à la fin de la semaine, tu peux lui dire que ce n'est pas la peine de continuer. Bien sûr, le problème, c'est que pour une boîte, quand tu embauches quelqu'un, c'est quand même assez... ça perturbe, quoi. C'est-à-dire qu'il faut le former, il faut faire l'onboarding, il faut lui donner accès à tous les systèmes, bref, ça, c'est un investissement quand même quand tu embauches quelqu'un. Donc, tu essaies, bien entendu, de trouver le candidat qui fait plus l'affaire, que tu veux être sur ton coup, quoi. Mais n'empêche, du fait que tu sais quelque part, si ça marche pas, au revoir, bon, t'hésites moins, quoi.
Ouais, tout à fait. Okay.
C'est violent. Faut être. C'est surtout quand tu viens de France, ça fait drôle, hein, mais on savait tout.
Ouais, tu m'étonnes. Et donc, tu nous dis voilà, que tu as travaillé dans une bonne dizaine de boîtes, très différentes les unes des autres. Il y a de la start-up, il y a du Walmart. Tu nous as parlé de Qualcomm aussi. Donc, c'est vraiment des profils de boîtes très différents. Comment, selon toi, tu expliques que ce soit, alors j'allais dire aussi facile, bon je suppose que tu n'es pas arrivé dans la boîte les mains dans les poches en disant je veux travailler pour vous et ils t'ont pris, mais comment tu expliques que ce soit aussi facile de trouver un job dans des boîtes aussi différentes? Alors il y en a eu en France, il y en a eu aussi pas mal aux États-Unis, donc c'est peut-être en partie la culture américaine qui fait ça, mais voilà, comment tu expliques ça? Est-ce que selon toi c'est... ça vient de toi, de tes compétences, de ton profil, ou est-ce qu'il y a autre chose qui se cache derrière?
Ouais, je me pose souvent la question. Déjà, il y a une chose importante, c'est le réseau, le networking, c'est-à-dire les gens que tu connais. Je pense que ça existe sans doute en France. Hein. En France, c'est surtout basé sur l'école. Bon, j'ai fait une grande école, Supélec, donc c'est vrai que ça aide. Hein, t'es Supélec, moi, je prenais pour trouver des clients, je prenais l'annuaire, je regardais les boîtes, et puis il y a Supélec, je l'appelle, quoi. T'envoies un mail, tu dis bon, t'aurais pas un contrat pour moi, bref, des choses comme ça marche. Aux États-Unis, de toute façon, ils connaissent même pas Supélec, donc c'est un autre débat, mais il y a quand même un aspect, il faut travailler son réseau, quoi. C'est-à-dire, et c'est pas forcément artificiel, quoi. Au contraire, c'est travailler avec des gens, montrer ce que tu... Quand les gens savent ce que tu sais faire, tout ça, ils ont confiance en toi. Les gens bougent, hein, les gens bougent beaucoup aux États-Unis, sans doute beaucoup plus qu'en France. Encore une fois, ça peut être un cliché, il faudrait vérifier les chiffres, mais je pense qu'il y a les gens bougent beaucoup. Et donc, je prends l'exemple de Qualcomm, c'est qu'il y avait un product manager donc, dans la boîte mobile où j'étais avant, où je travaillais avec ce gars-là. On avait un super bon rapport. À un moment donné, lui est allé chez Qualcomm, toujours en tant que product manager. Et à un moment donné, il m'a contacté, dit tiens, on a un poste qui pourrait marcher. Et là, c'est l'exemple. Donc, c'est le point d'entrée, c'est le networking. Mais après, c'était un poste en plus chez Qualcomm, c'était de la 3D, c'était l'augmented reality, c'était un domaine que je ne connaissais pas du tout, mais du tout. Donc, c'est souvent ce que je donne comme conseil aux gens qui veulent chercher un boulot, c'est qu'il faut bien mettre dans la tête que chercher un boulot, c'est un boulot. C'est-à-dire qu'il faut y passer du temps, il y a un process, il faut se former, il faut se renseigner sur la boîte. Donc, je pense qu'il y a, il y a tout un effort à faire et que si tu le fais bien, eh ben, ça peut payer. Parce qu'à l'inverse, moi, en particulier chez Qualcomm ou dans plein de boîtes où j'étais de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que je recrutais des gens. Par exemple, chez Qualcomm, tu postes une annonce. Dans la semaine, tu as plusieurs milliers de CV qui t'arrivent. Hein. Donc, il faut trier. Et donc, c'est bête à dire, mais tu vois, il y a un effort à faire pour entrer dans une boîte. Et quand tu vois que les gens ne le font pas, eh ben, tu n'essayes même pas d'aller plus loin. Quoi. Tu files déjà par les gens qui ont fait un effort. Nous, à l'époque, chez Qualcomm, on faisait un SDK d'Augmented Reality. Eh ben, au minimum, je m'attendais à ce que les gens l'aient utilisé et peut-être fait une démo. Mais il y en a très peu. C'est le secret que personne ne forcément se rend compte, c'est qu'il y a 1% des gens qui font l'effort nécessaire pour se démarquer de la masse. Et pour se démarquer de la masse, ça prend du temps, certes, mais c'est totalement faisable. Et quand tu arrives à faire ça, déjà, tu sors du lot et après, bon, c'est la loterie un peu de l'entretien. Chez Qualcomm, par exemple, c'était, je crois, 7 heures d'entretien. Tu vas chez eux, tu passes 7 heures à parler à 5 ou 6 personnes. C'est dur, c'est la loterie. Des fois, tu passes ou tu passes pas. Mmh. Et pour avoir été de l'autre côté, encore une fois, très souvent, c'est vraiment la loterie, quoi. C'est-à-dire que quand c'est fait, après, il y a un meeting où les 7 personnes qui ont parlé au candidat se rencontrent. Et ben, s'il y en a un des 7 qui a eu une mauvaise expérience, ou quelque part, celui qui est le plus haut dans l'échelon, dans l'échelle hiérarchique, a des réserves, et ben, ça suffit pour que maintenant, on ne prend pas le candidat, quoi.
Ouais, ok. Et comment tu... Imaginons, voilà, quelqu'un qui sort d'école en France ou peut-être même pas, qui a déjà une première expérience en tant que développeur en France, qui a envie de s'expatrier aux États-Unis. Est-ce que tu aurais des conseils particuliers à lui donner, que ce soit pour intégrer une start-up ou pas? Ou alors, est-ce qu'au contraire, justement, il y a peut-être des voies plus faciles comme intégrer une start-up pour ensuite intégrer un grand groupe aux États-Unis, mais quels seraient tes conseils, voilà, pour quelqu'un en France qui est dans le domaine de la tech et qui aimerait bien, bah, comme toi, s'expatrier aux États-Unis?
Ouais. Encore une fois, c'est forcément biaisé parce que c'est basé avec mon expérience. Je pense qu'en effet, c'est sans doute plus simple d'aller dans une startup. Déjà, par rapport à moi, quand je suis parti donc dans les années 2000, en 2000, c'est la difficulté maintenant, c'est les visas, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours été compliqué aux États-Unis pour les visas de travail, mais ça l'est encore plus maintenant. Quoi. C'est-à-dire que la première étape, c'est le H1B, qui est un visa donc, que l'employeur doit demander à un candidat. S'il veut embaucher quelqu'un de France en particulier, il doit demander un H1B. Il y a des quotas. Je crois même qu'il y a une loterie, c'est-à-dire que ben voilà, les États-Unis, ils ont tant de H1B qui ont été demandés cette année, il y a une loterie, ben voilà, il y en a qui sont octroyés, ceux qui ne le sont pas. Et donc, si tu n'as pas ton H1B, ben, tu ne peux pas venir aux États-Unis. Il y a des astuces, si tu viens en stage aux États-Unis, tu peux travailler sur des visas un peu spéciaux, mais qui sont limités dans le temps. Donc, tout ça pour dire que c'est compliqué. Et je pense que ça vaut le coup de prendre un avocat pour essayer de démêler tout ça. Mais si ça marche, j'ai l'impression quand même que c'est plus simple d'essayer d'aller dans une start-up ou peut-être une boîte américaine qui est basée en France, se faire embaucher chez eux pour faire peut-être éventuellement se faire rapatrier après aux États-Unis, mais c'est compliqué. Les startups ont quand même en général plus de mal à recruter. Faut, sans faire de cocorico, les Français ont quand même une bonne réputation en tant qu'ingénieurs aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, les élèves doués ont plutôt tendance à faire médecine ou avocat ou des professions de ce type-là, donc l'ingénierie, c'est plutôt réservé. Il y a beaucoup d'Européens et beaucoup d'Asiatiques. Bref, c'est rare, en fait, les boîtes. Je pense que je n'ai jamais travaillé dans une boîte américaine où la majorité de l'équipe était, j'allais dire, américaine depuis deux générations, quoi. C'est toujours des gens, entre guillemets, soit Européens, soit Asiatiques. Donc, je pense que c'est un atout. Quand tu es Français pour accéder aux États-Unis, tu peux avoir cet avantage-là. Mais il faut bien, ça reste compliqué quand même.
Ok, top. Bah c'est hyper bon à savoir tout ça. Top. Est-ce que on passe un peu à la question philosophique, on va dire, du podcast? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libre avec toutes ces aventures et ton quotidien aujourd'hui? Voilà, la question un peu fatidique, est-ce que tu estimes que tu as atteint ta liberté aujourd'hui ?
Oui, parce que donc j'ai plus de 50 ans, par exemple. Donc, c'est toujours... Tu peux te poser... à un moment, tu te poses la question. Tu dis, est-ce que je suis toujours... j'ai le mot anglais qui me vient, relevant, je ne sais pas comment dire en français. Est-ce que tu es toujours à la page ? Est-ce que tu es toujours quelqu'un, un profil qui intéresse les employeurs ? Je pense que l'informatique donne cette liberté-là. C'est-à-dire que si tu as une compétence technique, on ne regarde pas vraiment l'âge. Hein. Moi, j'ai embauché des gens âgés. J'ai travaillé avec plein de boîtes où il y avait des gens âgés, entre guillemets, bien sûr. Surtout que je le suis maintenant aussi. Donc, mais n'empêche que si tu as une compétence technique, elle est reconnue. Comme il y a toujours une difficulté pour trouver des profils techniques, ça ne tombe pas d'un arbre en le secouant. Quoi. Il faut les chercher. Donc, si tu en trouves un, tu ne fais pas forcément... L'aspect âge ne rentre pas forcément en ligne de compte à ce moment-là. Quoi. S'il y a un fit pour ton job, ben, tu prends la personne. Donc ça donne cette liberté-là. En tout cas, je ne sais pas si c'est une liberté, mais en tout cas, cette sécurité que tu te dis, bon, au moins, je suis libre de changer de boulot. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un frein. Je pense qu'il peut y avoir des gens qui, à un certain âge, qui disent, bon, là, je ne vais pas changer de boîte parce que si je change, je ne trouverai jamais de boulot. Là, pour l'instant, je n'ai pas cette crainte-là. Donc, c'est quand même une liberté. Donc, cette liberté de pouvoir changer de boulot entre guillemets quand tu veux, il y a aussi la liberté financière, faut pas non plus se leurrer, quoi. C'est quand même des boulots qui payent vachement bien. Moi, depuis que je bosse, j'ai jamais eu de baisse de salaire depuis que j'ai commencé à travailler, donc c'est toujours une progression dans ce sens-là. Donc, on va pas se voiler les yeux, hein. L'aspect financier est quand même hyper important. Il y a cette liberté géographique, hein. Comme tu disais, un petit jeune aujourd'hui à Paris peut se dire, tiens, je vais venir soit aux États-Unis, soit en Asie, n'importe où, il peut changer de pays assez facilement. Alors que si tu es médecin ou avocat, tu ne peux pas. Ce n'est pas aussi facile de changer de pays parce qu'il y a des réglementations associées. Donc, l'informatique reste quand même donne cette liberté-là. Moi, je sais que si je peux retourner en France ou je peux retourner en Europe en général, c'est pas un problème. Et la dernière liberté que ça donne, c'est qu'en effet, aujourd'hui, tu peux créer une boîte avec zéro investissement. Encore une fois, les années 80, quand j'ai commencé, ce n'était pas forcément le cas, mais aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Tu peux créer une boîte. Si tu te mets sur le cloud, ça te coûte, en particulier si tu fais du serverless, ça te coûte zéro. Si tu n'as pas d'utilisateur, ça te coûte zéro.
Ouais.
Dès que tu commences à avoir du trafic, ça commence à coûter de l'argent, mais si tu prévois ta monétisation d'avance, ce n'est pas forcément un problème parce que ça te coûte de l'argent, mais tu touches de l'argent en même temps. Donc, vraiment, les investissements sont vraiment minimum. Sauf les investissements en temps, bien sûr. Il faut trouver le temps pour faire ces projets-là, mais c'est tout à fait faisable. Et tu peux le faire même en parallèle avec ton boulot. Moi, il y a quelques années, donc, j'ai monté une boîte avec des gens. Je faisais ça en parallèle avec Qualcomm. Donc, ça demande, bien sûr, à 5 heures du matin de se lever, de mettre 3 heures de boulot, aller chez Qualcomm, et puis le soir, revenir et passer... une heure ou deux, et puis les week-ends. Donc, c'est compliqué parce que ça demande un investissement en temps, mais c'est faisable.
Ouais, tout à fait. Top. Bah, hyper intéressant. Et est-ce que, deuxième question un petit peu philosophique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta carrière ? Alors, on ne va pas parler professionnel, hein, on va se concentrer surtout sur... Enfin, on ne va pas parler personnel, on va se concentrer surtout sur le pro. Mais voilà, un truc éventuellement que tu as regretté, que ce soit peut-être un job ou alors quelque chose que tu as fait dans ce job ou au contraire, quelque chose que tu n'as pas fait et que tu aurais bien aimé faire, voilà, parce que peut-être ça faisait peur ou tu n'osais pas te lancer.
Non, la boîte pour laquelle j'ai eu le plus d'excitation dans toute cette période-là, c'était une boîte qui s'appelait Rabbit, qui était c'était une boîte donc typique San Francisco ou à Silicon Valley, c'est-à-dire VC funded. C'était un réseau social où tu pouvais regarder, c'était web et mobile, tu pouvais regarder des séries Netflix ensemble, c'est-à-dire que tu créais une room et tu regardais Netflix et tu pouvais chatter en voix ou en chat, tout ça. C'était un réseau social et c'était de la folie, quoi. C'est-à-dire que ça marchait du feu de Dieu. Pas forcément pour des raisons légitimes, quoi. C'est-à-dire que c'était aussi un moyen, parfois, pour les gens de voir des films qu'ils n'auraient pas pu avoir accès sinon. Mais n'empêche, et surtout, il y avait une équipe. C'était une équipe de rêve, quoi. C'est-à-dire, j'allais dire que des jeunes. Bon, je ne devrais pas dire ça, vu que j'étais déjà pas jeune à l'époque. Mais c'était quand même une vraiment une expérience humaine fantastique. Donc, le regret bon, qui est indépendant de moi, c'est que cette boîte a fini par couler. C'est-à-dire que, pareil, le business model était dur à trouver et donc ça n'a pas marché. Et donc, c'est un peu un regret externe à moi-même parce que je ne pourrais pas forcément y faire grand-chose. Mais à l'époque, j'imaginais très bien un monde dans lequel ça aurait pu vraiment cartonner et puis faire un truc qui aurait vraiment duré dans le temps et d'arriver à un produit vraiment super excitant et grand public. Mais bon, c'est quand même une expérience humaine formidable et c'est le regret, quoi. À un moment donné, j'y ai cru, j'ai dit, là, ça va décoller, ça va donner quelque chose. Mais non, ça n'a pas marché.
Ok, top. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tous ces retours d'expérience. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Hyper intéressant de discuter avec toi. Voilà, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. On pourrait encore discuter pendant pas mal de temps. Malheureusement, on arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais te poser deux dernières petites questions. La première qui est, est-ce que tu as une ressource particulière que tu aimerais partager aux auditeurs ? Alors, ça peut avoir un rapport avec ce qu'on a dit voilà, durant cet épisode ou pas. Donc, quand je dis ressource, ça peut très bien être un livre, un site web, une série, un film, un podcast, une application. Bref, peu importe. Mais voilà, quelque chose que tu aimerais partager aux auditeurs.
Ouais. Bah, ça va être un hardware, c'est le Raspberry Pi. Encore une fois, moi, quand j'ai commencé l'informatique, donc c'était ces ordinateurs, à l'époque, c'était les PC que tu pouvais démonter. Quand il y avait l'Internet, il fallait le démonter pour mettre une carte modem, tout ça. Mais en tout cas, il y avait un rapport physique à la chose. Et quand tu programmais, c'était pareil, quoi. Même tu programmais d'un point de vue, tu faisais de la vidéo, il fallait accéder à la mémoire. Bref, tu avais un rapport au hardware qui était très proche. Et le software marchait en parallèle avec le hardware. Et donc, tu avais un peu besoin de connaître les deux pour vraiment... faire des progrès. Et aujourd'hui, avec tous les systèmes qu'on a, avec en particulier des JVM, tout ça, c'est que tu ne vois plus le hardware. Plus personne n'a accès au hardware. C'est que, même aujourd'hui, les langages, hein, plus personne n'accède à la mémoire, un pointeur, bon, ceux qui font du C peut-être, mais sinon, donc il y a cette abstraction totale du hardware qui est forcément positive aussi, mais qui, à mon avis, on manque une petite dimension. Et donc, l'intérêt du Raspberry Pi, c'est que d'abord, tu peux programmer tous les langages dont je te parlais, TypeScript, Python, C, tu peux tout faire là-dessus. Mais en plus, tu as cette dimension où tu as ce rapport physique à la machine que moi, je trouvais que c'était dans la boîte où je travaille aujourd'hui. Donc, c'est aussi une start-up américaine et avec un management français, ça s'appelle Gardine, donc c'est un système d'hydroponie où on fait pousser des salades dans le salon. Donc, et à la base, dedans, c'est un Raspberry Pi. Et c'est une plateforme hyper intéressante, en particulier pour les gens dont on parlait au début, là, les gens qui veulent s'initier à l'informatique. Je pense pour voir si tu es vraiment passionné, si c'est quelque chose qui va te plaire ou pas, le Raspberry Pi, c'est un playground parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment moyen, en plus, ça évite de casser ton propre Mac ou PC, et tu travailles là-dessus. Et bien sûr, ce n'est pas très puissant, mais quand même, ça permet de faire des choses intéressantes. Et la première fois que tu fais clignoter une LED sur ton Raspberry Pi, et ben, t'es content, même si c'est trois lignes de C, quoi.
Top. Bah écoute, j'en ai un qui prend la poussière là dans le tiroir. Je vais le ressortir un peu pour jouer avec.
Non, c'est marrant comme environnement. En plus, c'est un système Unix, donc tu apprends des choses. Tu peux tout casser, c'est pas grave. Une fois que ça marche plus, tu changes de SD card, t'en mets une autre. Donc tu peux vraiment t'amuser avec un système sans avoir peur de le casser et de faire des choses que tu n'oserais jamais faire sur ton PC personnel ou sur ton Mac personnel. Donc vraiment, je pense encore une fois, pour quelqu'un soit sûr, est-ce que j'aime bien l'informatique ou pas, est-ce que c'est un métier que je suis prêt à faire, ben, c'est vraiment un bon moyen de commencer.
Ouais, puis c'est ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu, certes, mais c'est pas non plus... Enfin, c'est pas un jeu qu'on t'apprendrait en école primaire. C'est vraiment des trucs concrets que tu peux réutiliser après dans une boîte. Tu nous parlais effectivement de la boîte dans laquelle tu travailles aujourd'hui. C'est du concret, quoi. C'est pas des briques de Lego.
Non, tu peux faire un serveur web, tu peux faire un serveur Minecraft, tu peux faire des choses. Encore une fois, les performances sont pas forcément parfaites, mais ça suffit largement pour faire des expérimentations qui encore une fois sur un PC sont plus t'aurais plus peur de le faire, quoi. Non c'est ouais, vraiment c'est pas un jouet, c'est vraiment une vraie machine.
Ok, trop bien, super. Et dernière question, est-ce que tu aurais en tête un ou deux profils que tu aimerais bien recevoir, enfin entendre sur ce podcast?
Alors il y a quelqu'un dont je pense s'appelle Philippe Clavel. Philippe Clavel, c'était le CEO de la boîte Rabbit. Bon, il a eu plusieurs rôles dans la boîte, en tout cas, c'est lui qui l'a créé. Je pense qu'il a un profil hyper intéressant, plus orienté Silicon Valley. Maintenant, il travaille chez Roblox. Donc, je peux te mettre en contact avec lui. Lui aussi, il a une histoire hyper intéressante. Bon, c'est aussi un supélec, désolé. C'est comme ça que la première connexion s'est faite avec lui. Mais lui, il a un profil hyper intéressant. Et il a cette vision plus Silicon Valley. Ici, San Diego, c'est la province hein, à l'échelle des États-Unis. Donc, on a le soleil, tout ah, ça, mais ce n'est pas la Silicon Valley, ce que j'adore. Mais donc, lui, il est vraiment plus dans l'aspect Silicon Valley. Il a eu des expériences hyper intéressantes. Il a beaucoup voyagé à travers les États-Unis. Et je pense que son histoire peut être intéressante. Bon, il y aura forcément des overlaps avec mon histoire, mais n'empêche, je pense qu'il peut amener une dimension supplémentaire. Et je pense que ça sera une bonne personne à interroger.
Ouais, carrément, tout point de vue est bon à prendre. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour, d'une part, le temps que tu as passé avec nous, pour ton retour d'expérience et aussi pour cette mise en contact avec un deuxième profil hyper intéressant. Merci encore une fois, merci infiniment hein, pour tout ton retour d'expérience. Et bah voilà, je peux que te dire merci et peut-être à bientôt hein, dans un nouvel épisode du podcast parce qu'on sent que tu as encore pas mal de choses à raconter.
Merci Quentin, non, c'est très intéressant.
Merci à toi, salut.
Au revoir.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la plateforme que vous utilisez actuellement ou même à partager l'épisode à votre entourage qui pourrait être intéressé. Ça nous aide à nous faire connaître et à partager ces retours d'expérience à davantage de monde. En tout cas, merci pour votre écoute et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.